Amis de RCF Vaucluse, bonjour. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Père Georges.
Nous nous retrouvons à l'approche de cette fête de la Nativité selon la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, telle que nous l'appelons quand nous déclinons complètement le sens de cette fête, en fait, chez nous orthodoxes. Et nous nous retrouvons finalement avec une idée sur laquelle nous avons échangé. Si nous parlions un peu de, finalement, d'où vient ce Jésus, qui est-il au plan de sa lignée?
Voilà, selon la chair.
Selon la chair, donc effectivement. Alors, la généalogie de Jésus, je serais tenté de dire, c'est quelque chose, parce que quand le prêtre est amené à lire l'évangile de la généalogie, c'est particulier à lire, et quand il doit faire son homélie derrière sur ce texte-là, souvent ce n'est pas complètement aisé, d'autant que, en plus, il n'y en a pas qu'une de généalogie.
Et oui.
Alors, comment, par quel bout on attrape cette généalogie pour bien comprendre le sens que l'on connaît? Il faut qu'on comprenne d'où vient Jésus. Est-ce que c'est bien lui qui, depuis les écritures les plus anciennes, est attendu là?
Eh oui. Je pense que la première chose, il faut bien réaliser quel est le but des évangiles, des écrits. C'est déjà de témoigner de la divino-humanité de Jésus. Et, en quelque sorte, de permettre d'approcher ça. Et pour ce faire, on trouve au départ que c'est bizarre d'avoir deux généalogies, mais elles ont deux buts complètement différents, enfin complètement, pas complètement, mais différents. Celle de Matthieu. Matthieu qui s'adresse spécialement au monde juif. D'ailleurs, saint Irénée note qu'au début, il note ça dans un traité qui s'appelle le traité des hérésies, Matthieu publia chez les Hébreux, dans leur propre langue, donc en hébreu, eh bien, l'évangile. Au même moment, ou un petit peu après, Pierre et Paul évangélisaient à Rome.
Oui.
Donc il y a un premier évangile de Matthieu en hébreu, ce qui déjà permet aux juifs pieux d'approcher un petit peu plus l'histoire. Et la première phrase de Matthieu, c'est « Fils de David, fils d'Abraham ». Donc, ça note déjà trois choses pour Jésus, sa royauté, sa prêtrise et sa prophétie. La royauté pour David, David était roi, tout le
roi David, oui.
Voilà, c'est ça, prophétie, mais surtout royauté, et Abraham était le premier prêtre qui a élevé un autel à Dieu.
Oui.
Il était aussi appelé prophète à un autre endroit, tout ça on le trouve dans l'Ancien Testament.
Oui.
Donc, dès le début, le juif pieux voit qu'il va être question de quelqu'un qui a la dignité de roi, prêtre et prophète.
Oui.
Donc déjà, ça le situe un petit peu.
Ça le situe dans une réalité effectivement double, hein,
oui.
et ça le met en perspective depuis la nuit des temps, en fait.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Et alors bien sûr, c'est la généalogie des hommes, des mâles, mais donc qui arrive à Joseph. Mais Joseph est considéré non pas comme le père biologique, mais comme le père légal, parce que c'est lui qui nomme l'enfant. Or, nommer, c'est d'une certaine manière reconnaître.
Oui, absolument.
Voilà, donc il est le père légal de Jésus.
Inutile de préciser effectivement que Joseph n'est pas le père de Jésus,
voilà.
Il n'y a pas de souci là-dessus, mais il est bon de préciser qu'il y a cette filiation,
voilà.
Voilà.
Alors c'est pas uniquement selon la chair, puisque finalement, quand on lit toute cette généalogie dont vous avez parlé, eh bien on trouve Abraham engendra Isaac, engendra Jacob, etc., etc. Et à la fin, eh bien on trouve Jésus qui a été engendré, d'où Marie, je ne sais plus exactement, Jésus, Marie naîtra, Jésus naîtra de Marie,
absolument.
Il a été engendré.
Oui,
donc,
oui, oui.
Il a été engendré, c'est au passif.
Oui.
Donc ça note bien la rupture par rapport à toute la lignée des hommes qui engendrent.
Qui ont, oui, oui, absolument.
Alors, j'avais envie d'ajouter que dans la généalogie de Matthieu, contrairement à celle de Luc, il y a on nomme quatre femmes. Alors, oui. On n'a pas le temps aujourd'hui de détailler les quatre,
oui.
Bien que chacune ait son intérêt et son importance, mais j'avais envie de parler de celle de Ruth.
Oui.
Parce que Ruth est une Moabite, c'est-à-dire non-juive, qui est devenue juive par la suite, mais au départ non-juive. Donc, on a toutes les nations qui se greffent sur l'alliance d'Israël.
Oui, c'est ça. C'est pas une histoire... entre guillemets, entre juifs. C'est beaucoup plus large.
Voilà,
c'est véritablement l'humanité qui, par ce biais-là, Jésus rentre dans l'humanité des hommes.
Voilà, tout à fait. Et prend en charge tout leur péché, même déjà à partir de toute cette généalogie. Parce qu'on connaît l'histoire de David et de la femme d'Ouri. Enfin bref, il y a eu des choses pas très à son honneur, on va dire.
Voilà, j'ai un instant cru que vous alliez employer un autre mot, ça m'aurait gêné, mais effectivement, quand nous lisons...
Voilà, et les Moabites sont les descendants des enfants de Lot et de ses filles.
Oui.
Les filles ont fait boire Lot, et bon, enfin bref, ça a donné le peuple des Moabites. Donc tout ça, finalement, ça peut paraître un peu scandaleux que ce soit dans les ancêtres de Jésus, mais d'un autre côté, ça montre bien... Que Jésus va prendre en charge tous les péchés des hommes.
Oui, et qu'il vient de cette humanité-là.
Voilà, ouais.
Et nous savons que, enfin, on peut faire là le parallèle avec le Dieu qui pardonne toutes les fautes tous les hommes, parce qu'il les aime.
Voilà,
alors après, à eux de trouver l'humilité, le repentir et tout ce que l'on veut, mais d'accord.
J'avais aussi en fidélité, bien sûr c'est dans les deux généalogies, mais dans les ancêtres on trouve bien sûr Salomon et Jacob, et Salomon, outre sa grande sagesse, avait comme spécialité le grand pouvoir sur les démons. Donc on sait bien que Jésus a été quelqu'un qui a beaucoup été le maître et le chasseur de démons.
Oui, oui, oui.
Et en plus... Jacob est aussi bien connu pour son combat et sa victoire sur l'ange, le combat de l'ange. Et traditionnellement, dans le Talmud, il est dit que c'est l'ange de la mort qui a fait mourir les premiers-nés des Égyptiens. Donc Jacob a une victoire sur la mort assez particulière, et Jésus est descendant, tout au moins selon la chair, de cette chose-là. Donc, on sait bien, par sa passion, et sa mort et sa résurrection, sa victoire sur la mort.
Oui. Vous apportez là tout de suite une double dimension quand même à ces généalogies. La dimension de la filiation, effectivement,
oui.
le décours
oui.
de l'histoire, mais la symbolique et le sens que l'on va trouver à cette filiation travers, effectivement, tous ceux qui la constituent et leur histoire personnelle.
Oui. Et pour reprendre donc le but de Matthieu, qui était de montrer au monde juif que Jésus était le Messie, dans la généalogie à partir de Ruth, eh bien, c'est pratiquement la généalogie de Ruth. Donc, le juif pieux qui entend cette généalogie, en fait, il la connaît.
Oui. Et on parle bien de son peuple.
Voilà, tout à fait.
Absolument.
Oui.
Avec toutes les confusions, est-ce que c'est lui, que nous attendons,
que
nous n'attendons pas, enfin. Mais effectivement, les choses sont affirmées et posées d'une façon claire. Alors, certains seront éclairés et croiront, d'autres se détourneront et resteront tournés vers le passé, vers les tables.
Mais peut-être qu'ils ont aussi leur rôle.
Oui.
Oui, moi je suis persuadée que... Ils ont aussi leur place dans le grand tableau définitif.
Certainement.
Oui. Quelque chose également qui est intéressant, c'est l'histoire de ces 3 fois 14 générations.
Oui.
Donc, si on relit bien attentivement et qu'on compte, en fait, c'est pas 3 fois 14.
Nous avions parlé en d'autres temps de cela, effectivement.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, 3 fois 14, ça fait 42. Et si on compte, on n'arrive qu'à 40, parce que la dernière n'a pas 14 noms.
Voilà, alors, oui, la dernière n'en a que 12, je crois, non ?
Oui, quelque chose comme ça, oui.
Voilà.
Oui.
Et alors, comment comprendre... parce que... 3 fois 14, ça fait 42.
Oui.
Et en fait, on arrive à 40.
Et voilà, voilà.
Alors,
c'était bien d'arriver à 40.
Oui.
C'était bien que Jésus soit le 40e.
Oui.
Parce que ça renoue avec tous les 40 de la Bible.
Oui.
Les 40 jours du désert, les 40 oui. jours de Moïse au Mont Sinaï. Il y a plein de 40 dans la Bible qui correspondent toujours à un temps de maturation pour qu'émerge une situation nouvelle.
Au passage vers autre chose.
Voilà,
vers oui. autre chose.
Et c'est bien ce qui va se passer pour Jésus.
Oui, effectivement. Alors ça, c'est très intéressant parce que il faut être un peu roué à la symbolique
oui,
hébraïque pour relever des détails comme cela. Qui, si on ne les repère pas, nous font perdre quelque chose
du
sens.
Parce que l'hébreu, vous parlez de la symbolique hébraïque, l'hébreu, eh bien, 14, c'est 10 plus 4, et 4, c'est la porte, et 10, c'est le dalet, la lettre dalet qui correspond au hiéroglyphe de la porte,
oui.
et 10, c'est yod, la première lettre de yod, hivav, et, qui est une lettre qui est considérée comme l'étincelle divine. Donc 14, on peut lire la porte de Dieu.
Oui. Très intéressant la culture que vous nous proposez de partager là, parce que effectivement, elle nous éclaire. Elle oui. nous éclaire.
De plus, ça rejoint David, parce que la gématria, enfin la valeur numérique des lettres de David.
Que l'on appelle gématria.
Qu'on appelle gématria, voilà. David, Dalet 4, veut 6, et encore un Dalet 4, ce qui fait donc 14.
Voilà. D'accord.
Donc on est vraiment dans l'histoire de la royauté de David.
Oui. Il y a le même nombre de générations dans les deux généalogies.
Je n'ai pas compté, mais je ne pense pas. Non.
Ouais, je suis pas certain.
Non, non. D'ailleurs, la généalogie de Luc raconte autre chose.
Absolument.
Oui.
Elle est d'une autre nature.
Oui, oui, oui.
Cette magnifique litanie qui marque l'entrée dans la liturgie des fidèles, où le prêtre et le chœur se répondent, et nous écoutons là un enregistrement du monastère de Zagorsk en Russie et de son chœur. Peut-être nous étions en train d'évoquer les nombres et leur sens. Je crois qu'il y a, sur le 4, il y a encore une dernière signification peut-être qu'on pourrait évoquer.
Tout à fait, parce qu'on a vu donc Dalet qui est 4, on a vu également le nombre 40, mais si on regarde la valeur numérique des lettres, eh bien 400, qui est donc le troisième étage dans les valeurs numériques, 400 c'est la lettre, c'est la valeur numérique de la lettre Tav, et Tav, son hiéroglyphe, est une croix.
C'est la dernière lettre de l'alphabet,
oui,
hein.
Oui, oui.
Et le hiéroglyphe est une croix.
Oui.
Bon.
Alors, voilà.
Bon.
Alors, bien sûr, dans le monde juif, ils ne considèrent pas les juifs que c'est la croix du Christ, mais nous, on ne peut pas ne pas faire le lien.
Absolument, absolument.
Oui.
Ouais. C'est d'ailleurs... oui.
Donc beaucoup de choses sont dites avec cette généalogie qui, dans un premier temps, nous paraît très bizarre, très... très hermétique finalement, mais si on creuse un peu, elle raconte déjà des tas de choses.
Voilà. Alors je crois qu'effectivement, ce que vous nous apportez là, c'est une forme de... quelle est la catéchèse qui peut être communiquée à partir justement de quelque chose qui est une énumération de noms.
Oui, hein?
Un tel engendra un tel, qui engendra un tel, et voilà. Et très souvent, les fidèles qui entendent la lecture de cet évangile comprennent bien que c'est en rapport avec Noël et que ça explique comment Jésus est finalement arrivé à un moment donné, mais tout le sens que revêt cette généalogie échappe, alors que c'est un sens qui est profondément éclairant sur la nature du Christ, parce que finalement, c'est pas pour rien, c'est bien l'étincelle de Dieu qui est venue, c'est bien celui qui est venu sauver tous les pécheurs, parce qu'il y en a pas mal quand même qui le précèdent et aider un peu effectivement pécheurs, voilà, hein, simplement. Voilà. Alors ça c'est la généalogie de Matthieu.
De Matthieu, hein.
La deuxième c'est celle de Luc, qui doit être un peu postérieure probablement.
Sans doute, oui.
Hein, puisque Matthieu est généralement repéré comme la première, et elle dit finalement autre chose.
Voilà, tout à fait.
Et les deux doivent se compléter, j'imagine.
Oui, mais bien sûr, elle raconte par contre plus le côté prêtre, nouveau prêtre de Jésus.
Oui.
Pourquoi ? D'abord parce qu'elle commence dans le temple, elle se termine dans le temple.
Oui.
Donc, et en plus, elle a de nombreuses prières cantiques. Il y a le cantique de Zacharie, il y a le Magnificat, il y a aussi le Notre Père. Donc c'est vraiment lié au côté prêtre, nouveau prêtre de Jésus. Et d'autant plus qu'en fait, elle commence par le grand prêtre de l'époque, qui est Zacharie, qui ne peut pas célébrer la plus grande fête, qui est Yom Kippour, le grand pardon, justement, où normalement le grand prêtre entre pour la seule fois de l'année dans le Saint des Saints, et il prie pour les péchés, d'abord les siens, et ensuite il dit le nom divin, Adonai. Ensuite, pour les péchés de sa famille, il redit le nom divin. Et ensuite, pour les péchés de tout le peuple. Oh. Après, il sort et il redit encore une fois Yod et Vavé. Et là, il a été muet. Vous connaissez l'histoire, parce que Dieu lui a dit qu'il aurait un fils, il n'a pas cru.
Il n'a pas cru.
Tu ne parleras pas.
Ouais.
Donc, il n'a pas pu célébrer Yom Kippour. L'évangile de Luc commence par l'impossibilité de célébrer Yom Kippour, le grand pardon. Et c'est Jésus qui va le célébrer plus tard.
Oui.
En tant que nouveau grand prêtre, avec Jésus qui nous sauve de tous nos péchés.
Oui.
Donc, voilà ce qu'on peut voir sur l'évangile de Luc.
Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi, on peut aussi comprendre là que on ne peut finalement rien dire sur Jésus, même quand on est grand prêtre, parce qu'on est muet, quoi. On est muet
aussi,
devant un tel miracle, devant une telle bénédiction qui descend sur tous les hommes.
Et oui.
Oui, alors c'est vrai que la Bible et le Nouveau Testament sont riches d'événements où il arrive des choses extraordinaires aux hommes, que ce soit les yeux de Paul qui se recouvrent d'écailles, que ce soit effectivement Zacharie qui devient muet, et plein d'autres choses. Parfait.
Et peut-être qu'on peut s'étonner de voir que dans notre liturgie, on invoque les ancêtres du Seigneur, Joachim et Anne.
Oui.
Joachim, Joachim, enfin.
Oui.
Et c'est assez bizarre parce que Joachim ne se trouve dans aucune des deux généalogies.
Oui.
Alors, on peut se demander pourquoi. Alors, une des explications, je pense que c'est déjà intéressant de voir que, en fait, il se trouve que Joseph et même Marie, ça se trouve dans les textes talmudiques de l'époque, sont des descendants de Élie avec un H.
Pas le prophète Élie.
Voilà, c'est ça. Alors vous allez me dire, Élie, c'est pas Joachim. Non, ça c'est sûr. Mais Élie est le diminutif de Éliakim, qui est, et ça vous le trouverez dans 2 Chroniques 36, versets 4 et 5, Éliakim est le premier nom de Joachim, de Joachim. Donc en fait, Élie et Joachim, c'est la même personne.
C'est quelque chose qui se passe à l'époque égyptienne, ça, non ?
Oui, tout à fait, oui. C'est le roi d'Égypte qui,
d'accord,
qui change le nom de Eliakim en Joachim.
D'accord. Donc il n'y a pas de rupture, contrairement, voilà, à ce que l'on pourrait, voilà, croire là.
Exactement.
Joachim, il est bien dans la lignée, mais sous un nom.
Voilà. Et presque dans la lignée de Marie. Donc certains vont même jusqu'à émettre l'hypothèse que la généalogie que donne Luc est celle de Marie.
D'accord.
Alors que celle que donne Matthieu est celle de Joseph.
Oui.
Et celle de... Alors Marie, par contre, assez curieusement, n'est pas nommée, mais c'est normal parce que dans les règles talmudiques, on ne nomme pas les femmes.
Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. On a un peu progressé depuis longtemps, mais on n'est pas...
Mais Luc respecte ça, il ne nomme aucune femme.
Oui, absolument. Oui, absolument. Oui. Mais il y a cette histoire que l'on connaît, qui est dite sous forme de plaisanterie parfois, mais que l'on retrouve beaucoup en Orient. Combien avez-vous d'enfants? Grâce à Dieu, j'ai quatre garçons, j'ai quatre enfants,
oui,
et j'ai deux filles. Voilà, c'est quelque chose, voilà, ce qui veut dire qu'on sépare bien les garçons et les filles dans la perception sociale que l'on a,
oui, tout à fait,
de la lignée. Alors, va arriver à un moment donné Jésus.
Oui.
Jésus. Pourquoi Jésus, finalement, ce nom?
Ah oui, ce nom de Jésus, je trouve, est extraordinaire, surtout quand on le voit en hébreu. Parce qu'en hébreu, le nom se dit Yeshua, et il est formé de quatre lettres, et il y a trois lettres qui correspondent au verbe Yasha, qui veut dire sauver. Et la quatrième lettre, c'est le Vav, qui est la sixième lettre de l'alphabet, donc la lettre de l'homme, symboliquement le sixième jour.
Oui.
Donc les quatre lettres de Yeshua, on trouve sauve l'homme.
Oui.
Les lettres de l'air de sauver et la lettre de l'homme. Oui.
Effectivement. Donc Jésus, dans le simple nom que l'on emploie, enfin, le simple nom, c'est une drôle de formule, mais
oui,
dans ce nom que nous employons,
oui,
nous, au moment où nous disons Jésus, simplement lorsque nous l'invoquons, nous invoquons celui qui est venu nous sauver, c'est véritablement. Pas parce qu'on dit le nom Jésus, mais parce que le nom de Jésus signifie.
Oui, oui.
Le signifie. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Oui. Je me demande, Anne-Marie, si nos auditeurs, lorsqu'ils vous écoutent à l'occasion, ne se prennent pas d'envie irrépressible de se mettre à l'hébreu pour voir tout ce qui leur a échappé, effectivement.
C'est sûr. Oui, c'est sûr que ça donne un relief et une profondeur qu'on ne trouve pas avec les traductions, ça c'est clair.
Ouais.
Et des liens aussi, si vous permettez, Père Jean.
Bien sûr.
Lorsque l'on dit Hosanna au plus haut des cieux, en
oui,
fait, le nom hébreu, c'est Hosanna. Et bien sûr, c'est devenu une formule de rendre honneur, mais finalement, Hosanna vient du verbe Yasha, le même verbe. Donc le premier sens de Hosanna, c'est sauve donc. Le na voulant dire la même chose que nous en français. Na, sauve na.
C'est magnifique. Via
Hosanna.
Oui. Ah oui, c'est très intéressant. Alors je dois avouer, et je le dis très modestement, que je suis le prêtre et que vous êtes parmi les fidèles et que vous m'enseignez régulièrement et que vous en faites profiter nos amis. Et puis nous allons nous quitter avec ce prêtre qui est rejoint par les fidèles. Et nous allons tous nous rassembler effectivement derrière le prêtre pour nous tourner vers le Seigneur, pour accueillir celui qui nous rejoint dans cette magnifique fête de la Nativité. Merci beaucoup, Anne-Marie. Amen.